Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Avec ma femme d'aujourd'hui, nous allons parler de féminité, de sport, de maternité, de décisions finalement qui concernent les enfants et puis de ce qui fait de nous, les femmes que nous sommes aujourd'hui. On y va pour les détails.
Mehdi 1, Yasmine, femme d'aujourd'hui.
Rita Belkhiat, bonjour.
Bonjour.
Alors Lella Rita, qu'est-ce que ça fait justement d'avoir le même nom et prénom qu'une autre personnalité connue ?
Alors, c'est très drôle parce que j'ai eu beaucoup d'appels à mon cabinet quand je venais de démarrer pour un rendez-vous avec Rita Belkhiat. Donc, j'ai très souvent des appels pour ça. Donc, il fallait que j'explique. Et souvent, c'était parfois des messieurs que moi, j'étais gynécologue et non pas du tout psychologue ou psychiatre. Donc, c'est une anecdote comme ça assez drôle. J'ai jamais connu cette personne. J'aurais été ravie de faire sa connaissance. J'ai un petit peu regardé son parcours et c'est vrai qu'elle est impressionnante.
Alors, Lella Rita, vous êtes gynécologue, c'est bien ça?
Oui.
Et puis, vous avez une autre particularité, c'est que vous adorez danser, c'est ça?
Ah, comment vous savez ça?
Ah
oui, c'est vrai.
C'est-à-dire que vous avez deux passions dans la vie. Et c'est les femmes d'aujourd'hui, Heidi, c'est notre communauté quand même. On
bravo,
se connaît.
Bravo, bravo. Voilà. Alors, écoutez, oui, ça c'est vrai. C'est quelque chose que j'aimais faire depuis que j'étais toute petite et qui, à l'adolescence, on m'a demandé d'arrêter de danser. Mais c'est vrai qu'une fois adulte, je me suis un petit peu libérée de tous ces liens qu'on nous met dans la tête quand on est une jeune adolescente marocaine et qu'on n'a pas le droit de s'exposer, etc. Et une fois adulte, j'ai repris des cours de danse. Et j'ai fait un spectacle avec ma fille sur une scène à Casablanca et je suis ensuite très fière. Voilà.
Est-ce qu'on peut revenir sur ça, justement ? Est-ce que, Rita, vous auriez pu être danseuse professionnelle ? Vous auriez voulu l'être ?
Je pense que oui. Je pense que oui. Dans notre tradition, dans notre culture, ça aurait été extrêmement mal vu et mes parents auraient été très très malheureux. Mmh. Et du coup, c'est quelque chose que j'ai abandonné très tôt dans ma tête. Mais oui, j'avais la possibilité de l'être, je pense. J'avais cette passion pour la danse qui aurait pu me faire aller très loin dans ce domaine si j'avais peut-être essayé. Mais on ne saura jamais, je ne sais pas.
Alors, aujourd'hui, vous êtes une jeune quadra, c'est ça ?
Alors, je ne dirais pas une jeune quadra parce que je regarde la cinquantaine de très près.
Une jeune quadra.
Voilà.
Mais justement,
c'est magnifique. Je trouve que c'est une chance qu'on a de vieillir. Moi, je fais un métier qui côtoie beaucoup la mort. Et aujourd'hui, je me dis si je suis encore là, alhamdoulilah.
Moi, je dirais plutôt qu'il côtoie beaucoup la naissance, pas la mort.
Alors les deux, c'est la vie et la mort, c'est l'association des deux, puisque moi je suis médecin avant tout. Et du coup, avoir la chance d'avancer dans l'âge, c'est magnifique. Mmh. Et je remercie le bon Dieu de me laisser cette chance de voir mes enfants grandir et j'espère de voir leurs petits-enfants, Inch'Allah, un jour.
Inch'Allah. Voilà. Alors,
l'âge, pour moi, ce n'est pas important.
Oui, alors justement, on va aller sur ce terrain parce qu'entre 40 et 50 ans, on dit souvent que c'est l'âge de la maturité, c'est l'âge de l'acceptation de soi et c'est l'âge aussi de l'introspection et de l'ouverture vers les nouvelles opportunités. Est-ce que, pour vous, en regardant en arrière, est-ce que vous auriez voulu pousser un peu et dire « Ok, je veux embrasser cette carrière de danseuse ?»
Non, absolument pas. Aujourd'hui, je ne regrette absolument rien. Je fais le plus beau métier du monde, vraiment. Et je suis persuadée qu'il y a une étoile au-dessus de chacun d'entre nous qui lui trace son chemin. Et mon chemin était celui-là. Aucun regret. J'ai repris ma revanche, entre guillemets, sur la danse où je me suis inscrite avec ma fille à son cours de danse et on a dansé sur une scène. C'était très sympa. Mais ma carrière d'aujourd'hui est une carrière que je regrette absolument pas. C'est le plus beau métier du monde. J'accompagne beaucoup de femmes à mettre au monde leur bébé. J'accompagne beaucoup de femmes à aller mieux et je suis très très heureuse de faire ce que je fais. Et je suis sûre que rien n'arrive par hasard. Donc c'est comme ça, on est orienté dans notre vie vers un chemin et c'est le chemin qui nous était destiné. Ça, j'ai aucun doute là-dessus, je n'ai aucun regret, vraiment.
Si votre fille voulait devenir justement embrasser une carrière artistique dans la danse, dans le cinéma,
Figurez-vous que c'est peut-être le cas. Elle a envie d'être chanteuse, elle a une très belle voix et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Après, je sais que c'est des carrières très dures, très très compliquées, où il y a beaucoup de concurrence, où c'est pas évident. Après, elle aura le droit de faire tout ce qu'elle voudra. Voilà. Pareil pour mon fils. Moi, j'ai un fils. Vous savez, il n'y a pas que les filles. Hein. Moi, j'ai un fils qui, aujourd'hui, a décidé, quand il avait 12 ans, de faire une carrière de footballeur professionnel. On l'a accompagné dans ce sens, ce qui était difficile pour des gens académiques comme moi et son père. Son père est architecte, moi, je suis médecin. Et ça a été très, très dur d'accepter que notre fils ne ferait pas des études classiques comme tout le monde. Donc, il n'y a pas que les filles aussi, il y a même les garçons qui ont des limites sociétales et des exigences sociales dans notre pays. On dit non, tu dois faire ingénieur, médecin, je ne sais pas quoi, etc. On met beaucoup de pression à nos enfants. Les filles et garçons sont sous pression et c'est très dur pour des parents de sortir et de s'élever au-dessus des exigences de la société et d'accepter qu'un enfant fasse quelque chose de différent. Et quelque chose qui le passionne et qui le fait vibrer. Et ce n'est pas évident. Et jusqu'à aujourd'hui, il a 18 ans, ce n'est pas toujours évident pour moi parce que c'est des carrières difficiles. Mais j'espère pour lui qu'il trouvera son bonheur.
Alors, justement, il fait ça où ? Au Maroc même ou dans un autre pays ?
Oui. Mon fils a été repéré à l'Académie Mohamed VI de football. Donc, il vit là-bas depuis qu'il a l'âge de 12 ans. Ce n'était pas facile pour moi d'accepter qu'il quitte la maison à cet âge-là. Mais je me rappelle de lui tout petit qui me regarde et qui me dit « Mais maman, c'est mon rêve, c'est ma vie. » Et donc, on l'a laissé quitter le nid de la maison très tôt. Voilà. C'était pas facile, mais il est parti très tôt, à 12 ans. Voilà, il était interne, on le voyait pas souvent. Et puis en plus, il y a eu le Covid. C'était une phase un peu compliquée, mais c'est son chemin, sa destinée, sa petite étoile à lui. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Voilà.
Alors justement, on peut aussi profiter de votre présence avec nous pour discuter de ça. Tous les parents qui ont du mal à autoriser émotionnellement leurs enfants à vivre autre chose qu'un parcours académique, un parcours classique. Et vous l'avez très bien dit, vous êtes des parents vraiment, on va dire, tout ce qu'il y a de plus classique en termes de formation, médecine, architecture, donc couple très académique.
Académique.
Voilà. Et alors, est-ce qu'il a fallu du temps pour l'accepter ?
Alors, moi, je vais vous dire, c'était beaucoup de souffrance pour une maman de voir un enfant de 12 ans partir, c'est vrai. Au-delà de ça, ce que je veux dire à tout le monde, c'est que si vous ne le laissez pas partir, il vous en voudra toute sa vie. En fait, moi, c'est la seule chose qui m'a encouragée. Je me suis dit, imagine, tu l'empêches de partir, tu lui fais faire une vie classique comme tout le monde, qu'est-ce qui va se passer ? Et il va avoir un sentiment d'échec toute sa vie parce qu'on l'aura empêché de faire ce qu'il voulait faire. Et je suis persuadée d'une chose, c'est qu'on ne fait bien que des choses qui émanent de nous. C'est-à-dire qu'un enfant qui va être obligé à faire médecine, moi j'avais des garçons brillants, des filles brillantes avec moi en première année médecine, obligés par des familles de médecins à faire médecine alors que ce n'est pas ce qu'ils voulaient, et bien ils ont tous échoué. Parce que la motivation ne venait pas d'eux. Ils n'avaient pas envie de faire ça. Tout dans la vie, sans exception, est très dur. Je veux dire, tous les métiers du monde sont difficiles. Vous pouvez avoir un métier qui semble simple pour les autres, il est très difficile parce que vous gérez des choses compliquées, vous gérez des humains ou des stocks de périssables ou plein de choses. Donc tous les métiers du monde sont difficiles, ils demandent une part d'investissement et cet investissement il ne vient que si vous êtes motivé. Et c'était ça ma façon de réfléchir, c'était de me dire il ne sera jamais motivé dans sa vie si je l'empêche de faire ce qu'il veut à cet âge-là. Maintenant, ce que je dis aux parents, parce que c'est vraiment pas facile pour eux, c'est qu'ils doivent se mettre dans la posture d'un parachute. C'est-à-dire, cet enfant, il peut d'abord changer d'avis en cours de cursus, il peut ne pas réussir dans ce domaine qui est difficile et revenir vers une voie classique. Et nous, on est là pour les aider et les épauler à retrouver un autre chemin au cas où le chemin qu'ils ont choisi finalement était trop dur pour eux. Donc, notre rôle à nous, c'est de les accompagner un petit peu de loin, les laisser... quand on a un enfant qui a une passion, je pense qu'on n'a pas le droit de tuer la passion en lui. Voilà.
C'est une revanche un peu sur la vie à travers votre fils.
Alors, je vais vous dire, je suis vraiment quelqu'un, alors appelez ça de la maturité, appelez ça de la philosophie, appelez ça comme vous voulez, je n'ai aucun regret sur ma vie et j'ai aucune revanche à prendre. Vraiment, parce que la chance qu'on m'a donnée de faire un métier aussi humain, aussi fort, aussi intense, m'a procuré tellement de plaisir, d'adrénaline, de bonheur que je ne pense pas que j'aurais pu en recevoir plus dans une autre carrière. Donc, je n'ai pas de revanche à prendre, je pense. Je pense juste que mes parents ont été les meilleurs parents du monde avec leurs moyens à eux et leur façon à eux de me protéger face à une société qui était différente il y a quelques années. Aujourd'hui, la société a changé. Et du coup, je n'ai aucune revanche et aucun regret de rien. Vraiment. Je suis sincère, vraiment.
En même temps, quand on choisit de laisser son enfant vivre son expérience, j'imagine, oui. Étant donné qu'on connaît notre société marocaine, comment les liens étroits de la famille nucléaire avec la grande famille, on reçoit beaucoup de commentaires, on reçoit beaucoup de remarques. Parfois, il y a eu peut-être des remises en question, se dire attention, est-ce que je fais bien, est-ce qu'ils ont raison, est-ce que je suis mauvaise mère,
La chance que j'ai eue, vraiment, c'est que très tôt, je me suis déconnectée des remarques familiales, vraiment, ou des remarques des autres, du regard de l'autre. Très, très tôt. C'est-à-dire que moi, la remise en question, elle n'est pas liée au regard de l'autre et des remarques très déplaisantes de beaucoup de gens. Mais mes craintes étaient liées à ce côté, il a choisi un domaine très compétitif, avec beaucoup, beaucoup de blessures au niveau de la santé. Parce que quand vous faites une carrière de jeune joueur professionnel, il faut comprendre que vous avez deux entraînements par jour, souvent trois jours par semaine. Le reste, vous avez un entraînement, un match, une seule journée de récupération. Et donc, mon fils a été très souvent blessé. C'est normal, il était en pleine croissance. Et c'était le cas aussi d'autres joueurs avec lui. Donc, c'est plus par rapport à ça que j'ai eu peur. Je me suis dit, mais on a hypothéqué les études et en contrepartie, tout peut s'arrêter avec une seule blessure. Et c'est là où vous devez trouver en vous la ressource de vous dire que, et s'il passe le bac à 25 ans, et alors ? Moi, j'ai fini mes études, j'avais 34 ans, les études de médecine, c'est long. Et alors ? S'il est sur le marché du travail à 30 ans, et alors ? Et alors ? En fait, ça, c'est un mot magique que m'a appris ma fille, c'est « et alors ?» Donc, à chaque fois que quelqu'un fait une remarque déplacée, elle le regarde et dit « ok, d'accord, et alors ?» Et effectivement, une fois qu'on se pose cette question, on se rend compte qu'il n'y a rien de grave. Tout va bien. Tout va bien.
C'est s'autoriser de là. C'est s'autoriser de réfléchir différemment.
Différemment, ouais. Exactement. D'être différent. Imaginez qu'il n'ait pas le bac, et alors ? Et imaginez qu'il passe le bac, comme je vous ai dit, à 25 ans au lieu de 18, et alors ? Imaginez qu'il retrouve une nouvelle carrière. Ma meilleure amie, que j'adore et que je salue aujourd'hui, est en train de reprendre à 48 ans des études de droit. Elle va être diplômée à 50, et j'en suis fière, je suis fière d'elle. Donc voilà, oui. Il faut juste s'enlever les œillères et s'enlever les codes et les lignes rouges qu'on se trace et décider qu'on peut faire différemment des autres.
Et se dire « et alors ». C'est ça.
Et se dire « et alors ». Exactement. C'est la phrase magique de ma fille. Et alors.
C'est vrai. Parce qu'en plus de ça, aujourd'hui, c'est ça qui donne... j'ai pas de chiffres exacts, mais à travers toutes les discussions que j'ai pu avoir, c'est ça qui donne beaucoup de reconversions professionnelles, beaucoup de remises en question à un certain âge, beaucoup de nouveaux caps de vie, voilà. C'est parce que pendant longtemps, on a suivi le cadre, on ne s'est pas permis le « et alors ?», on ne s'est pas permis de se découvrir. Et puis ensuite, la dernière fois, justement, j'ai discuté avec quelqu'un par rapport au... à l'orientation académique des enfants. Et j'ai dit, moi, le meilleur cadeau que j'aimerais faire à mes enfants, c'est après le bac, aller faire prendre 2 ans sabbatique, mais bien, bien investi. Parce qu'un an, pour moi, ce n'est pas suffisant. 2 ans où elles pourront faire différents boulots, différents stages, différentes immersions, pour peut-être trouver leur voie, voilà, et pas rester uniquement dans l'académique, entre le collège, le lycée, l'université. Ensuite, on découvre c'est quoi l'environnement professionnel. Mais avoir un avant-goût de ce que c'est, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas. Et à partir de là, trouver sa voie académique ou
c'est
autre.
Vrai. C'est vrai.
Voilà.
C'est vrai que il faut vraiment donner des outils aux enfants. Les armes, les outils, les aider à se comprendre, les aider à voir ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. C'est facile à comprendre. Et voilà, et surtout leur laisser le choix. Parce que si eux choisissent, ils vont assumer la difficulté. Si c'est vous qui avez choisi pour eux, ça leur semblera une montagne et ils abandonneront. Maintenant, les armes du courage, de la détermination, de la force, voilà, ça, il faut qu'on les aide à les avoir quand même.
J'imagine que c'est aussi beaucoup de discussions au niveau du couple parental.
Oh oui. Ah oui. Moi, j'ai beaucoup de chance d'avoir un mari extrêmement fin psychologue. Il arrive à comprendre. Alors, lui aussi, c'était aussi une petite revanche parce que lui aurait rêvé d'être footballeur professionnel. Ouais. Donc, lui, peut-être que c'est quelque part aussi son fils. Il a transmis à son fils son rêve parce que déjà, à 1 an, il lui mettait un ballon dans les pieds. Donc, ouais. Je pense qu'il a un rôle dans tout ce qu'on a eu comme évolution. Mais il est très à l'écoute et très patient et très tolérant avec ses enfants, ce qui les aide à être bien dans leur peau, et j'espère en tout cas, et à avancer dans un chemin sereinement.
Alors justement, Rita, quand on approche de la cinquantaine, on dit souvent que c'est la période où finalement le corps peut commencer à nous lâcher, douleurs articulaires, oui. Arthrose, etc.
Oui.
Pourtant, vous êtes sur le point aussi d'embrasser le rêve de la danse, d'avancer encore plus dedans. Est-ce que ça fait peur, justement?
Ah, mais bien plus que la danse. Aujourd'hui, je peux me vanter de dire que je suis Iron Man.
Oh,
j'ai fait un Iron Man l'année dernière. Cette année, je me suis inscrite à un rallye, au rallye Aïcha des Gazelles. Ah. Je salue toutes les gazelles, d'ailleurs, qui nous écoutent.
Ça sera quand, Inch'Allah?
Inch'Allah, au mois d'avril.
Après Ramadan.
Après Ramadan, okay, exactement.
Okay.
Et tous les ans, j'essaye de faire un challenge pour aller un petit peu au-delà de mes limites. Parce que on n'a qu'une seule vie et qu'il faut essayer des nouvelles choses. Et chaque année, je fais un truc un peu bizarre.
Aux yeux des autres.
Inhabituel, on va dire.
Ouais.
Oui, aux yeux des autres, les gens sont assez étonnés. Mais c'est magnifique. Par exemple, les gens qui me connaissent vous diront que je n'étais pas très sportive. Et puis, de rien, j'ai réussi à faire un triathlon assez intensif. Et ça veut dire que ce jour-là, une fois que j'ai passé la ligne d'arrivée, j'ai compris que notre esprit nous donnait beaucoup d'idées limitantes et nous faisait croire qu'on n'était pas capable de faire certaines choses. Alors que quand on se donne les moyens, on y arrive. Et du coup, on peut faire tomber les barrières des idées limitantes qui nous laissent à des conditions trop simples. Il faut sortir de sa zone de confort et aller vers des choses nouvelles et parfois même compliquées. Parce que quand on y arrive, c'est un grand bonheur, vraiment.
Ces idées limitantes, c'est aussi « mon corps ne va pas m'aider ». Au-delà de « je n'en suis pas capable », mais « je suis à un âge où je ne peux pas pousser mon corps plus que ça ».
Oui, après, je ne vous dis pas le timing que j'ai fait. Il est pour un vrai triathlète, j'ai pris tout mon temps. Donc, je l'ai fait dans les limites parce qu'il y a quand même des cut-off où vous ne pouvez pas aller au-delà. Et je me suis entraînée pour le faire dans des conditions de bonnes conditions où je mettais pas en danger mon corps. Je me suis, bon, en tant que médecin, j'ai quand même des connaissances scientifiques qui fait que je me suis fait entourer par une kiné qui est adorable, que je salue. Donc on se fait accompagner dans ces situations-là, mais on peut tout faire, on peut tout faire. J'ai vu des gens qui avaient des problèmes de santé, qui sont sortis d'handicap par de la volonté, de la détermination. Donc quelqu'un qui, alhamdoulilah, n'a pas de problème de santé peut faire des choses incroyables. Mmh. Donc il faut juste pousser un petit peu, se dire que ben voilà, le sport c'est la santé, y aller en douceur, le faire intelligemment, se faire accompagner, et on peut faire des choses extraordinaires.
Et j'imagine que finalement, dans ce genre de, avec ce genre d'expérience, on fait davantage confiance à son corps pour nous porter pour les années à venir.
Oui, exact. Ben, c'est le but en fait. C'est, ouais. Le but c'est d'avoir une machine. On a une machine, hein, ouais, comme ouais. Une voiture. Il faut entretenir notre âme et dans une machine très perfectionnée, extrêmement impressionnante et miraculeuse qu'il faut entretenir. Donc il faut faire du sport. Ça, c'est, si j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui nous écoutent, c'est oui, le sport est indispensable à la bonne santé. Il faut faire attention, il faut avoir une bonne hygiène alimentaire. Je vais le dire à toutes les femmes qui sont en train de vivre le problème de la ménopause. On prend du poids très facilement, on change de métabolisme, on va tout stocker. Donc il faut prendre le temps de mieux manger.
C'est vraiment vrai tout ça, en fait.
Une alimentation plus saine, c'est, oui, c'est complètement vrai. Il n'y a rien de ce que je vous dis qui n'est pas prouvé scientifiquement. Ouais, ouais.
Mais Rita, juste une petite question.
Oui.
Alors chez nous, dans notre contexte marocain, on parle beaucoup de ménopause. Okay, donc on parle de ménopause comme étant l'arrêt définitif des règles. Alors
c'est la définition scientifique.
Okay.
La définition scientifique, c'est l'arrêt des règles pendant une durée d'un an.
Mais en même temps, aujourd'hui, ce qui circule beaucoup, moi je vois ça sur les réseaux sociaux, c'est parler de la périménopause. Tous les changements qui... Parce qu'en fait, on a l'impression que c'est le jour où tout s'arrête, où les règles s'arrêtent, que le corps change. Alors que apparemment, ça commence avant.
C'est une phase de la vie. Alors, je vais reprendre un petit peu ma casquette de médecin. C'est une phase de la vie où la femme va avoir une décroissance des hormones au niveau de son corps.
Mais à partir de quel âge ? Est-ce qu'on sait ou pas ?
Alors, c'est une moyenne, moyenne, mais en général, la ménopause arrive vers 50-55 ans. Et ça peut être beaucoup plus tôt chez certaines femmes et ça peut être beaucoup plus tard chez d'autres. Et avant que ça s'arrête complètement, il y a toute une phase où ça descend progressivement. Ça. Puis il y a des remontées cycliques.
Ah, si j'ai envie de reprendre ma casquette de matinée conseil là maintenant tout de suite. Mais on est prise par le temps. Je suis obligée de vous laisser partir, Rita Belkhiat. Mais par contre, ce que je peux vous proposer, c'est justement pour notre communauté de femmes d'aujourd'hui, c'est de se retrouver prochainement et de parler de choses-là qui concernent la périménopause et la ménopause. De tout ce qui concerne les traitements de substitution, est-ce qu'il faut, il ne faut pas, enfin voilà, parce qu'on manque d'informations, on en a besoin. Et voilà, moi en tant que femme, j'en parle avec mes amis, mais ça serait bien qu'on fasse profiter davantage notre communauté de ce sujet. Rita Belkhiat, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui.
Bah,
et
plaisir.
Prochainement,
avec grand plaisir.
Ma femme spécialiste d'aujourd'hui.
Voilà, avec grand plaisir.
Merci à vous, Rita. Merci à toutes et à tous pour votre confiance. Femme d'aujourd'hui et sa version homme, c'est du lundi au vendredi sur les ondes de Média et à tout moment à la demande et en avant-première sur Média Podcast et les plateformes de podcast habituelles.